Chapitre 21. Quelques personnes seulement, et triées sur le volet, avaient été invitées au mariage de Mrs. Tempest. Elle avait confié à tous ses amis qu'elle entendait que les choses se fissent très simplement. « Il y a quelque chose de trop triste dans ma position », avait-elle dit d'un air expansif, tout en décidant que ceux des invités qui assisteraient à la cérémonie appartiendraient au meilleur monde. Lord et Lady Ellen Gowan, invités, avaient accepté. Leur présence devait être d'un bon effet. Le colonel et Mrs. Carteret de Corps Hall, les Chopnell de Chopnell Park et quelques autres propriétaires des environs complétaient la liste. « C'est une grande satisfaction d'avoir le meilleur monde à cette cérémonie », disait Mrs. Tempest au capitaine Winstanley en dressant cette liste avec lui. Pour lui, il n'avait que deux amis, le major Ponterson et un cousin, membre du clergé, lequel devait être adjoint à M. Scobell pour la cérémonie. Ce fut un très joli mariage, tout le voisinage en convint, bien qu'il y manquât ce qui fait le principal attrait d'un mariage de jeune fille, une guirlande de jeunesse. La petite église de Beechdale formait un parterre fleuri, les serres de l'abbaye avaient été pillées. Lord Ellen Gowan avait envoyé une pleine voiture de fleurs et l'atmosphère était alourdie par le parfum de toutes ces plantes. Violette se tenait au milieu des invités, en proie à une douloureuse émotion qu'elle avait peine à contenir. Les reflets des vitraux colorant ses joues en dissimulaient la pâleur, qu'aurait fait ressortir sans cela l'or ardent de ses cheveux sous son chapeau Van Dyck à plumes bleues. Dans cette église où le peuple était venu de 10 miles à la ronde pour voir marier la veuve du baronnet Tempest, elle était la plus belle de toutes les femmes, mais elle ressemblait à un fantôme de balade, et son maintien glacial montrait à tous que ce mariage lui était odieux. Quand tout fut fini après les signatures, le capitaine Winstanley, devant tout le monde, s'approcha d'elle les mains tendues. « Ma chère Violette, maintenant me voici votre père, » dit-il. « Vous ne me verrez jamais manquer à mon devoir. » Elle se recula involontairement. Puis, voyant qu'elle était le point de mire de tous les regards, elle lui permit de lui toucher le bout des doigts. « Vous êtes bien bon, » dit-elle. « Une fille ne peut avoir qu'un père, et le mien est mort. J'espère que vous rendrez ma mère heureuse, c'est tout ce que j'attends de vous. » Tout le monde entendit ces paroles, qui furent prononcées d'une voix sèche et claire, et tout le monde comprit que le capitaine, quelle que fût sa conquête, avait trouvé en sa belle-fille à qui parler. Puis on rentra à l'abbaye, qui avait un air de fête. Le personnel domestique avait pris ce jour-là un air souriant, bien que pour tous, et tous en avaient conscience. Ce fut le dernier jour de leur paisible existence et le commencement d'une vie incertaine. « Il nous faudra être plus actifs sous un commandement militaire, » dit Pauline. « Et nous ne manquerons pas de monde pour nous donner plus de besogne, » ajouta Mrs. Trimmer. « Ah, je voudrais voir la cave au champagne un peu mieux approvisionnée, » répondit Forbes, le sommelier. « Nous sommes bien pauvres en vin mousseux pour le moment. » Le capitaine franchit le seuil de la maison, sa femme au bras, avec cette douce sensation que ses plus beaux rêves de fortune se trouvaient enfin réalisés. Désormais, il était le maître d'un domaine tel que jamais il n'aurait pu y prétendre. L'acheter, comment s'y serait-il pris sans un écu vaillant? Le créer, entreprise non moins chimérique. Il y avait fallu la main du temps et la mort de plusieurs générations. Le déjeuner fut bruyant, comme tous les déjeuners de noces. Il faut bien paraître ravi de l'événement. Et pour mieux témoigner sa joie, on mange, on boit plus de champagne que de raison à pareille heure. Et une furieuse envie de dormir vous prend au cerveau avant que les speeches, si courts qu'ils soient, aient dit leurs derniers mots. Le soleil du mois d'août dardait ses rayons en pleine salle du festin, sans se soucier des gelées et des bonbons glacés qui se laissait aller et faisait mine de fondre piteusement. Trop de chaleur, décidément, pour qu'il y eût beaucoup d'enthousiasme. Et d'ailleurs, la figure pâle de Violette imposait à tous les convives une gêne inavouée. Lorsque Mrs. Winstanley se retira pour revêtir son costume de voyage, sa fille la suivit, attention à laquelle elle ne s'attendait pas. « Cher enfant, dit-elle en serrant la main de sa fille, cette journée ne fera pas de différence entre nous. » « Je l'espère, maman, répondit gravement Violette. Mais on ne peut deviner l'avenir. Dieu veuille que vous soyez heureuse. J'en suis sûre, ce sera de ma faute si je ne suis pas heureuse avec Conrad, et ma plus ardente prière à Dieu sera pour que vous reveniez de vos préventions à son égard. » Violette ne répondit pas, et, fort heureusement, Pauline apporta la robe de voyage de soie marron, brodée de coquelicots et de bleuets couleur nature, d'après le style de South Kensington. La robe était trop réussie pour ne pas couper court à l'entretien. Le costume avait été fait avec un soin scrupuleux. Les moindres accessoires étaient assortis avec une rigoureuse précision. Le tout pour l'édification des facteurs de chemin de fer, des hôteliers écossais et de leur valetaille. Jusqu'à la fin, Violette resta près de sa mère. Elle reçut son baiser d'adieu, un baiser tendre et mouillé de larmes, et tant que la voiture fut en vue, elle la suivit du regard. Tout était fini. Les invités vinrent lui faire leurs adieux, puis les équipages se succédèrent devant le perron, et un quart d'heure après, il ne restait plus que le vicaire et sa femme avec Violette entre deux, regardant tristement le foyer, où un assemblage ingénieux de fougères et de géraniums tenait la place du joyeux feu d'hiver. « Venez passer la soirée avec nous, ma chère, » dit Mrs. Scobble avec bonté. « Vous seriez trop seule ici. » Mais Violette prétexta un mal de tête qu'expliquait du reste sa pâleur et que justifiait le cercle bistré qui entourait ses yeux. « Je serai mieux ici, » dit-elle. « J'irai vous voir dans un jour ou deux, si je le puis. » « Venez quand vous voudrez, ma chère. Pourquoi ne pas demeurer avec nous ? Mon mari et moi avons admiré votre conduite, car nous savons ce que cela vous coûte. » Le révérend Ignatius murmura une approbation. « Pauvre mère, soupira Violette, je crains d'avoir été bien dure. » Puis elle jeta un regard autour d'elle et aperçut le fauteuil du baronnet, toujours au coin de la cheminée. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle se figura y voir assise l'ombre de son père, avec son veston rouge, son fouet sur les genoux. Il la regardait en souriant. Elle serra la main de Mrs. Scobble, leur dit précipitamment adieu et les quitta. « Pauvre enfant, dit tristement la femme du vicaire, la chose lui est bien pénible. « Ah ! Soupira le vicaire, je n'ai jamais été partisan des seconds mariages. » Je crois, comme saint Paul, que la veuve est plus heureuse lorsqu'elle reste fidèle au souvenir du défunt. Violette appela Argus et monta à sa chambre suivie de son fidèle compagnon. Quand elle eut fermé sa porte à clé, elle se jeta à terre, sans égard pour le chef-d'œuvre de Madame Théodore. Et, entourant de ses bras la grosse tête de son chien, elle se cacha la figure dans son poil doux et soyeux. « Pauvre Argus, murmura-t-elle, je n'ai plus d'autre ami en ce monde que toi. »